Chapitre 15. Un matin de la fin de novembre, Alain reçut une lettre de sa grand-mère, où celle-ci lui apprenait qu'elle venait enfin de donner à Elsa l'autorisation de chercher un poste d'institutrice. La vieille dame ajoutait, « Madame Mulbar, à qui nous en avons parlé quand elle est venue chercher Florita, s'est offerte, avec sa complaisance habituelle, pour s'informer près de ses nombreuses relations. J'ai accepté car je la sais une femme sérieuse et de bon sens. Elle ne choisira certainement pas sans réflexion pour cet enfant dont elle connaît les bons sentiments et l'excellente éducation. Voilà notre Florie de nouveau partie, et désolée toujours la chérie de ne t'avoir pas vue cette année. Elle est de plus en plus délicieuse, ah, l'attachante petite nature. » En lisant ceci, Alain pensa, un sourire ému aux lèvres. Il faudra que je demande une permission de 24 heures pour aller voir à Paris ma petite fleur. Le temps me semble long à moi aussi. Le jeune homme était en correspondance assidue avec sa cousine, dont la photographie se trouvait enfermée dans un portefeuille qui ne le quittait pas. Ses lettres simples, charmantes, délicatement tendres, étaient celles qu'eussent pu écrire un frère et une sœur très profondément unis et absolument confiants l'un dans l'autre. Pourtant, Elsa avait bien deviné, cette affection était de l'amour, encore inconscient chez Florita, mais qui ne l'était plus chez Alain. Il pensait avec émotion. « Dans 3 ou 4 ans, elle sera une jeune fille délicieuse, ma Florie. À ce moment-là, je lui demanderai de devenir ma femme, car je sens bien que je ne pourrai jamais aimer personne en dehors d'elle. » Quelques jours plus tard, après cette lettre de sa grand-mère, Alain en reçut une autre. La marquise lui annonçait que Madame Mulbar avait trouvé pour Elsa une excellente situation d'institutrice. « Mais devinerais-tu où, mon cher enfant ? À Reims, chez un colonel d'artillerie, le colonel Blins. Tu connais sans doute. Madame Mulbar, sur le désir d'Elsa, cherchait plutôt à Paris ou aux alentours, mais elle a trouvé cette occasion. Bonne rémunération, famille honorable, intérieur sérieux. S'il t'est possible de m'avoir quelques renseignements complémentaires, tu me feras plaisir. Je voudrais savoir cet enfant dans un bon milieu, en rapport avec son éducation et sa nature sérieuse. » Ici, Alain s'interrompit un moment et murmura avec un léger sourire d'ironie. « Pauvre grand-mère, elle se fait peut-être un peu trop d'illusions. » Puis il continua. « Elsa paraît fort décidée à accepter cette situation qui paraît avantageuse. Je ne cherche plus à l'en dissuader, comprenant ce sentiment de dignité tout en sa faveur. Donc, il est possible que bientôt, elle aussi devienne une rémoise. Malheureusement, les convenances s'opposent à ce que ta présence là-bas puisse lui être de quelque utilité. Mais cette chère petite m'a dit, je me sentirais déjà moins seule dans cette ville étrangère à l'idée que Monsieur de Pinvalas s'y trouve. J'ai reçu tout à l'heure un mot de Florita. Madame Mulbar ne se remet décidément pas bien, et sur les conseils des médecins, elle se décide à partir pour Nice. Naturellement, elle emmène sa nièce, mais avec promesse de nous l'envoyer pour le mariage d'Armel. Monsieur Mulbar, en allant voir sa femme, nous ramènera cette chère petite. » Alain songea tout. « Eh, je le pense bien. Je serais content si je ne l'avais pas, ma jolie demoiselle d'honneur. » La nouvelle qu'Elsa allait probablement devenir concitoyenne le laissait tout à fait indifférent. Du moment où il n'aurait pas à s'occuper d'elle, peu lui importait qu'elle fût là ou ailleurs. Il reléguait dans l'oubli le souvenir de ce trouble fortuit qu'il avait un instant surpris et ne conservait à l'égard de mademoiselle Hoffel que cette antipathie sans objet précis qu'il avait éprouvée dès le premier jour. Pour complaire à Madame de Pinvalas, il prit les renseignements demandés, car il ne connaissait le colonel et sa femme que pour les avoir rencontrés dans le monde. En ayant recueilli d'excellents, il les communiqua aussitôt à sa grand-mère. Et une dizaine de jours plus tard, il apprenait par un mot d'Armel qu'Elsa était partie pour Reims. Il ne la rencontra que vers la fin de décembre, et simplement la salua au passage, car elle était accompagnée de ses élèves, une jeune fille de 17 ans qu'elle perfectionnait dans la connaissance de la langue anglaise, et 2 petits garçons à qui elle apprenait l'allemand. Laure Blins, petite personne blonde et poseuse, dit avec surprise, « Tiens, le lieutenant de Pinvalas qui nous salue, il ne me connaît pourtant pas. » Elsa dit modestement, « C'est moi, Laure. J'ai été élevée par les soins de sa grand-mère, et naturellement, nous nous sommes vus souvent au château de Runesto. »« Ah, vraiment, il est très bien, monsieur de Pinvalas. C'est l'officier le plus chic de toute la garnison. Ainsi, vous savez, il en ferait des conquêtes s'il voulait. Mais il est sérieux, il a l'air de ne rien voir. Et il paraît qu'il a des notes superbes au point de vue militaire. C'est un officier de très grand avenir, assure-t-on. Après quoi, la jeune personne, si bien renseignée, questionna Mademoiselle Hoffel sur le marquis de Pinvalas et sur sa famille avec un intérêt qui dénotait l'impression très vive faite sur elle par le séduisant officier. Elsa répondit complaisamment. Son cœur battait un peu plus vite depuis qu'elle avait vu Alain rencontrer le regard pourtant indifférent de ses yeux bleus magnifiques. Maintenant, plus que jamais, elle était décidée à jouer son va-tout pour atteindre au but ardemment désiré. Néanmoins, son amour pour Monsieur de Pinvalas ne lui faisait pas négliger son flirt avec Maurice. Le jeune homme, après s'être attardé à Runesto plus de 2 mois, était parti en emportant l'autorisation d'écrire à Mademoiselle Hoffel, dont il se sentait de plus en plus épris. Mais seulement quand je ne serai plus ici, où je ne pourrai naturellement recevoir vos lettres sans attirer l'attention, avait-elle prudemment spécifié. Aussitôt à Reims, Elsa en avait informé son fidèle soupirant. Sur sa demande, il lui adresserait poste restante des missives très enflammées auxquelles la jeune personne répondait sur un ton de badinage. Parfois, elle lui laissait entendre qu'elle était très remarquée, ou bien elle glissait une plainte résignée sur la tristesse de la situation d'isolé de mercenaire. Ainsi, elle le tenait en haleine, ou elle la pitoyait sur elle, continuant la manœuvre si bien commencée à Runesto. Et voici que, précisément, ce même jour où elle avait rencontré M. de Pinvalas, Maurice lui écrivait qu'il voulait la revoir, lui redire son amour, et qu'il allait arriver à Reims un de ces jours. Cela ne faisait pas l'affaire d'Elsa. Elle ne se souciait pas que M. de Ronchet se rencontrât avec son cousin, et, dans un moment d'épanchement, lui fit la confidence de ses sentiments pour la pupille de la marquise. Elle écrivit donc au jeune homme « Je vous défends bien de venir. À quoi cela servirait-il sinon à me compromettre? Or, je n'ai que ma réputation comme bien sur la terre, et j'y tiens fortement. Donc, cher ami, soyez raisonnable, patientez. Nous verrons dans quelque temps à trouver un moyen de nous rencontrer ailleurs, à Paris, par exemple. » Ayant ainsi réfréné pour un temps l'impatience de Maurice, Elsa ne songea plus qu'à l'exécution du plan préparé depuis son arrivée à Reims. Le mariage d'Armel était fixé au 12 janvier. La toilette de Florita était prête, et la fillette, toute joyeuse, se préparait à partir avec l'oncle Otto, venu pour passer les fêtes de Noël et du 1er janvier près de sa femme. Or, le 7, veille du départ, elle fut prise de malaise, de vomissements. Le médecin appelé diagnostiqua une affection grippale. La malade devait rester au chaud, être soignée sérieusement. Et quant à un départ, il n'était pas possible d'y penser, surtout pour aller du midi vers le froid et l'humidité. Ce fut une consternation, non seulement pour Florita, mais encore parmi les Pinvalas. Alain particulièrement se montra désolé. Il s'était réjoui, avant toute chose, de revoir sa petite cousine chérie, de constater qu'elle devenait toujours plus charmante, un peu jeune fille déjà, comme elle le lui écrivait. Et il fallait qu'il eût à son bras, le jour du mariage d'Armel, une demoiselle d'honneur de raccroc. « Fais-moi vite savoir, aussitôt que tu en connaîtras la date, le retour de ta tante à Paris, » écrivit-il à la fillette. « Je tâcherai d'avoir une permission pour aller t'embrasser. » Après 8 jours passés à Runesto, il regagna Reims et son confortable appartement, décoré de beaux vieux meubles, où le service était fait par une sœur de la cuisinière de Runesto, respectable personne d'une 50aine d'années, et par un des domestiques du château que le jeune marquis avait emmené avec lui, dès le début de sa vie de garnison. Un soir, vers 6 heures, le jeune homme, qui fumait en lisant un article de revue dans son cabinet de travail, vit entrer le valet de chambre qui annonça « Mademoiselle Elsa est là, demandant à voir monsieur le marquis. » Alain répéta, fort surpris, « Mademoiselle Elsa ?» Puis, après un court instant de réflexion, il ordonna « Fais entrer, Corentin. » Et il se leva, fit quelques pas vers la porte, pour accueillir la visiteuse, tout en se demandant, avec quelque contrariété, « Que me veut-elle, et à cette heure surtout ?» Elsa apparut, la démarche chancelante. À la main, elle tenait un de ces sacs de voyage appelés fourre-tout. Le tulle léger de sa voilette permettait de voir le visage bouleversé, les yeux pleins d'angoisse. Elle balbutia. « Monsieur, pardonnez-moi, mais je suis trop malheureuse, et vous êtes le seul ici vers qui je puisse accourir pour trouver aide et protection. Qu'y a-t-il donc, mademoiselle ?» Sans répondre, elle se laissa tomber dans un fauteuil. Le sac glissa de ses doigts sur le tapis. Elle se couvrit le visage de ses mains tremblantes, et un sanglot lui monta à la gorge. « Voyons, que vous est-il arrivé ?» Alain posa sa main sur l'épaule de la jeune fille et se penchait vers elle en lui adressant cette question avec un intérêt un peu ému. « J'ai été insultée par le neveu de Madame Blince, et elle a pris parti pour lui. Elle m'a dit des choses si dures. J'ai perdu la tête. Je suis partie de cette maison, et maintenant je ne sais où aller, dans cette ville où je ne connais personne que vous, monsieur. » Les doigts tremblants s'écartaient, laissant voir les yeux bleus, désespérés, implorants. Elsa répéta d'une voix brisée. « Je n'ai que vous, dites-moi ce que je dois faire. » Certes, Mademoiselle Hoffel était une comédienne remarquable, et elle avait préparé son rôle avec autant de soin, de minutie, qu'en ce moment même le gouvernement de son pays préparait la conquête du monde. Mais comme ce gouvernement lui-même, la jeune personne avait compté sans un de ces impondérables qui dérangent les plus belles combinaisons. Très infatuée d'elle-même, quoique sachant se faire extrêmement souple et humble à l'occasion, Elsa s'était imaginée qu'il lui suffirait de paraître suppliante, malheureuse, demandant protection, pour que le chevaleresque marquis de Pavalas s'émût profondément de cette infortune et s'employât de son mieux à la réparer. Qu'il l'eût reçue chez lui, qu'il s'occupât d'elle pour la conduire à un hôtel, qu'il alla ensuite demander à Madame Blince quelques explications, cela suffisait à Mademoiselle Hoffel pour dire qu'elle était compromise et arrivée ainsi, pensait-elle, à se faire épouser par cet homme qui avait un très vif sentiment de l'honneur. Mais Alain, malheureusement pour elle, était un observateur subtil. En outre, il avait toujours eu à son égard une vague défiance. Il nota aussitôt dans l'attitude, dans la physionomie, dans l'accent de la jeune fille, quelques notes fausses. Il vit passer dans les prunelles bleues un éclair de passion, et, comme déjà il avait eu à déjouer des pièges féminins, il devina celui-ci aussitôt. En se redressant et en s'écartant légèrement, il dit avec une tranquille froideur, « Mais, mademoiselle, vous devez comprendre qu'il m'est impossible de rien faire pour vous. Si vous ne pouvez rentrer chez les Blince, allez ce soir à l'hôtel, puis demain faites prendre chez eux votre bagage et retournez à Runesto. Voilà, je crois, le plus simple et le plus sage. » Elsa tressaillit. Au ton, à la physionomie du jeune officier, à cette façon hautaine de la tenir à distance, elle comprenait que tout son rêve s'écroulait. Elle dit d'une voix hésitante, « En effet, je le pense, mais je ne connais pas d'hôtel. Je vais vous en indiquer un, et Corentin vous y accompagnera. » Mademoiselle Hoffel se leva, en comprimant avec peine son désespoir et sa colère. « Ne dérangez pas Corentin, monsieur, je saurai trouver, sans doute. Il est plus simple qu'il vous y conduise directement. » Appelant le domestique, Alain lui donna ses instructions. Puis il dit, s'adressant à la jeune fille, « Je puis demain envoyer à ma grand-mère un télégramme annonçant votre arrivée, à moins que vous n'aimiez mieux vous en charger vous-même. » « Oui, monsieur, je m'en occuperai, car je ne vous ai déjà que trop dérangé. Pardonnez-moi, je vous prie. » Ceci était dit sur un ton doux, humble et résigné, qui eût attendri une pierre. Mais le lieutenant de Pavalas resta insensible. Il répondit avec une politesse froide, « Ce dérangement n'a pas d'importance. Je regrette de ne pouvoir faire davantage, étant donné les circonstances. Mais vous voyez que ma grand-mère avait raison en disant que vous étiez trop jeune pour débuter dans cette situation d'institutrice. » L'accent d'Alain était nuancé d'une ironie que perçut fort bien Elsa. Elle comprit qu'elle était devinée, en partie du moins. Monsieur de Pavalas ajouta, « Si la somme nécessaire pour le voyage vous fait défaut, je suis à votre disposition. » « Je vous remercie, monsieur, mais Madame Blince m'a remis les émoluments qu'elle me devait. » Elsa prit congé du jeune homme, sans embarras apparent, comprimant jusqu'au bout sa colère, sa rage plutôt. Alain, correct et froid, l'accompagna jusqu'au vestibule. Puis, quand elle eut disparu avec un Corentin, il revint à son cabinet et machinalement alluma une nouvelle cigarette. Les sourcils froncés, il réfléchissait. Qu'était-ce donc que cette jeune fille tant prônée par sa grand-mère? Les aurait-elle trompées? Oui, de cela, il était maintenant presque sûr. mais en ce cas il fallait avertir Madame de Pinvalas. Il pensa « Pauvre grand-mère, ce sera une dure désillusion. Elle aimait sa protégée, elle avait confiance en elle. J'aurais dû lui dire un mot cet été, des avances que me faisait cette jeune personne. Elle aurait été ainsi un peu préparée, mais je ne voulais croire qu'à un peu de coquetterie. Ce soir, j'ai vu qu'il s'agissait d'autre chose, d'une intrigue bien préparée. Qu'y a-t-il de vrai dans ce qu'elle m'a raconté au sujet de son départ de chez les Blins? Voilà ce qu'il serait intéressant de savoir. J'ai envie d'aller tout simplement trouver Madame Blins et de lui demander ce qui s'est passé, en lui disant que je viens au nom de ma grand-mère, car il convient de connaître si cette Elsa n'est pas indigne de reparaître chez nous. » Le jeune homme s'arrêta à cette décision, et le lendemain, vers le début de l'après-midi, il se présentait chez la femme du colonel. Madame Blins, petite femme ronde et affable, l'accueillit avec une certaine froideur, dont il eut l'explication quand, un peu après, mise en confiance par les loyales déclarations de l'officier, elle lui apprit que Mademoiselle Hoffel, en partant, s'était vantée d'être accueillie chez le lieutenant de Pinvalas, son ami d'enfance, et protégée par lui. Elle a joué ici une véritable comédie, nous nous en rendons compte maintenant. C'est une vieille bonne, femme perspicace, qui m'a ouvert les yeux en me faisant remarquer les coquetteries sournoises de cette personne à l'égard de mon neveu. Jusqu'alors j'étais satisfaite d'elle, je l'avoue. Elle me paraissait fort sérieuse, simple, obligeante. Elle donnait aux enfants d'excellentes leçons. Lorsqu'il y a une dizaine de jours, ma vieille bonne me prévint d'être défiante. Je tombais de mon haut. Et voilà qu'hier, Mademoiselle Hoffel vient me trouver, me dit avec un air tragique que mon neveu l'a insultée gravement, qu'elle ne peut rester ici plus longtemps. Je riposte que, tout en réservant mon jugement au sujet de mon neveu, j'ai à l'accuser, elle, d'avoir fait des avances à ce jeune homme un peu léger, j'en conviens, mais qui s'est toujours comporté correctement avec les institutrices précédentes. De là, vive discussion entre nous. Puis la jeune personne est partie à grand fracas, en annonçant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'elle se rendait chez vous. Mon neveu, que j'ai interrogé ensuite au sujet de cet incident, a reconnu la vérité des dires de Mademoiselle Hoffel, mais en ajoutant ce que je soupçonnais déjà, c'est-à-dire qu'elle l'avait incité par ses manières à lui manquer de respect. Voilà, monsieur, toute la vérité. L'officier la remercia vivement. « Je vais écrire à l'instant à ma grand-mère pour l'informer de tout cela, ajouta-t-il, car il ne faut pas qu'elle reçoive chez elle cette personne, une véritable intrigante. « Oui, vraiment, prévenez-la vite. Quoiqu'au fond, pensez-vous que maintenant... » « Oui, à la réflexion, il m'apparaît certain qu'elle n'osera plus se présenter chez nous, se doutant bien que ma grand-mère sera mise au courant. Mais qu'est-ce donc que cette nature? La fourberie même, évidemment. Elle a su admirablement tromper son monde, sauf moi qui ai toujours eu à son sujet une arrière-pensée. » Et il ajouta, au bout d'un court silence, « Heureusement. » Elsa était arrivée à l'hôtel dans un état de sourde exaspération qui la faisait trembler des pieds à la tête, car elle venait de voir s'effondrer tout son espoir. Il fallait renoncer au rêve merveilleux de devenir marquise de Pinvalas, et la femme de cet Alain, dont la seule vue la faisait frissonner d'amoureux émoi. Elle songeait avec rage tandis qu'elle allait et venait dans sa chambre d'hôtel. « Je le hais, et surtout cette Florita. Sans elle, peut-être serais-je parvenue à mes fins. Sa photographie était sur son bureau, je l'ai vue, entre celle de sa grand-mère et de sa sœur. Mais ce mariage ne se fera pas, je l'empêcherai. » Elle se jeta sur un siège et demeura là un long moment, le visage dur, les yeux mauvais. Puis se redressant, elle murmura. « Puisque ce coup-là est manqué, voyons autre chose. À défaut d'amour, je saurai du moins réaliser toutes mes ambitions. » Le lendemain, dans la soirée, Otto Mühlbar, prévenu par dépêche, attendait sa cousine à la gare de l'Est. Il la conduisit à l'hôtel et ils eurent un long entretien que Mühlbar termina en disant « Tu as une bonne idée, chère Hilda. Oui, épouse-le, cet imbécile. Ainsi tu auras une jolie position et des relations utiles en même temps qu'agréables. Quant à Florita, pour te faire plaisir, nous tâcherons de la soustraire au regard de son cher cousin, mais on ne pourra prolonger cela indéfiniment. Et Pepita, qui aime sa nièce, a été fort inquiète dernièrement, malgré mes assurances que la drogue n'aurait qu'un effet passager suffisant pour empêcher la petite de faire le voyage de Nice à Runesto. Pourtant, 8 jours après, il ne lui restait pas même un malaise. Elsa, dont la physionomie était sombre et mauvaise, frappa du pied en déclarant « Je ne veux pas qu'elle devienne sa femme, je ne le veux pas. Arrangez-vous pour cela comme vous voudrez, mais j'ai le droit de l'exiger. » Mulbar ne discuta pas. Florita n'ayant pas encore atteint ses 16 ans, il y avait bien le temps, pensait-il, pour que tout s'arrangeât. 2 jours plus tard, Maurice de Ronchet, qui se trouvait à Paris, reçut un petit mot de Mademoiselle Hoffel. « Cher Maurice, j'ai à vous parler. Je suis triste, malheureuse. Venez me donner un peu de courage, mon fidèle ami. Votre Elsa. » Fou de joie, il s'empressa de se rendre à l'hôtel où était descendue Elsa. Tombant à ses pieds, il couvrit de baisers les mains qu'elle lui abandonnait, en attachant sur lui un regard de reconnaissance mélancolique. « Elsa, ma bien-aimée. Ah, mon cher ami, je n'ai plus que vous. » Et au crédule garçon, elle conta une histoire habilement forgée, où le neveu de la colonelle Blince et le lieutenant de Pinvalas jouaient un fort vilain rôle. Maurice, connaissant Alain depuis l'enfance, ayant pu apprécier la droiture, la noblesse de caractère, la délicatesse de sentiment chez son cousin, se trouvait mieux que quiconque à même de le croire absolument incapable de tout ce dont l'accusait Mademoiselle Hoffel. Mais sa passion pour Elsa l'aveuglait. Il ne voyait plus que par ses yeux, et dans un accès d'indignation, il s'écria « Je vais aller le trouver, ce misérable. Je vais lui dire… » Elsa l'interrompit d'un ton impératif « Je vous le défends. Jamais je ne supporterai qu'à cause de moi, il y ait des discussions entre cousins, et peut-être pire que cela. Votre estime, votre amour suffiront à me faire oublier tout. Car maintenant, cher Maurice, je vois que mon bonheur est près de vous, et j'accepte ce que vous m'avez offert à Runesto. » « Vous voulez bien devenir ma femme, Elsa, chère Elsa. Oui, je vous ferai oublier ces mauvais jours. Vous serez heureuse, délivrée de tout souci. » Assis près d'elle, il l'entourait de ses bras, contemplant avec adoration le beau visage mélancolique, les yeux qui lui souriaient doucement. Elsa dit d'un ton hésitant « Je crains, Maurice, que ce mariage ne vous donne des ennuis avec votre famille, car il est certain que Madame de Pinvalas prendra fait et cause pour son petit-fils, et que c'est moi qu'on accusera de toutes les turpitudes. » Maurice s'écria avec emportement « Que m'importe ma famille ? Je suis complètement indépendant, libre de mes actes, et personne n'a rien à dire s'il me plaît de réparer les injustices, les malheurs dont vous êtes victime. Mais ce sera la brouille avec notre grand-tante, chère amie. Eh bien, tant pis, vous avant tout, Elsa, vous par-dessus tout. » Cette fois, Mademoiselle Hoffel n'opposa plus d'objection, et un sourire énigmatique aux lèvres se laissa complaisamment embrasser par son fiancé, tout en pensant « Après tout, celui-là, je le conduirai par le bout du nez, ce qui est bien agréable. » Madame de Pinvalas avait éprouvé un véritable effondrement au reçu de la lettre où son petit-fils lui contait les faits et gestes de sa protégée. L'excellente dame répétait avec désolation « Ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible. » Pourtant, Alain n'était pas homme à exagérer, à parler à la légère, surtout quand il s'agissait de la réputation d'une femme. Et ce qu'il disait là était si grave. Car alors, il fallait se persuader qu'Elsa, depuis longtemps, trompait sa bienfaitrice par ses mines sérieuses et dévotes, qu'elle n'était qu'une hypocrite, c'est-à-dire un des êtres les plus hideux qui existent au monde. Et une ingrate aussi, une misérable ingrate, ajouta Armelle, quand l'aïeul, quelques jours plus tard, alla à Vannes afin de la voir. Pour vous récompenser de tous vos bienfaits dont vous l'avez comblée, de l'affection maternelle dont vous l'avez entourée, elle n'a trouvé que cela, essayer de séduire votre petit-fils. Les Pinvalas devaient s'apercevoir qu'Elsa Hoffel avait trouvé autre chose encore. Elle avait interdit à Maurice, déjà complètement sous le joug, de notifier à sa famille son mariage avant que celui-ci fût accompli, car elle se méfiait des revirements possibles chez cette faible nature. Pourtant Alain le sut, quelques jours avant la cérémonie. Indigné, il demanda une permission de 24 heures et tomba un soir dans le coquet appartement qu'occupait Maurice, avenue de Villiers. Monsieur de Ronchet s'habillait pour aller chercher sa fiancée. Tous deux, ce soir, avec les Ulrich, Mulbach, chez qui Elsa était reçue en intime, devaient se rendre à l'opéra comique. Alain, écartant le domestique qui voulait l'annoncer, entra dans la chambre où se trouvait son cousin en manche de chemise. Et, avant que l'autre fût revenu de sa stupéfaction, il l'apostropha en ces termes. « Est-ce vrai ce qu'on me raconte? Tu vas épouser cette Elsa? Qu'est-ce qui t'a dit? Qu'importe! Est-ce vrai ?» Maurice, reprenant un peu de sa présence d'esprit, riposta, l'air arrogant. « Oui, c'est vrai. Mais toi, comment oses-tu venir chez moi, après t'être conduit de cette manière envers une jeune fille malheureuse, isolée ?» L'officier l'interrompit brusquement. « Qu'est-ce que tu me chantes là? Explique-toi, ou plutôt non, c'est inutile, je comprends que la personne a renversé les rôles et m'a donné le mauvais. Or, voici exactement ce qui s'est passé. » Et Alain fit le récit complet de l'incident. Il ajouta en terminant, « Tu sais assez que j'ai toujours été sincère, Maurice, et que si j'avais le moindre tort envers cette jeune fille, je le reconnais très franchement. Mais grâce au ciel, je n'ai rien à me reprocher. Ce n'est pas que les avances m'aient manqué, car Mademoiselle Offel, avant de songer à devenir comtesse de Ronchais, avait jeté ses vues sur le marquisat de Pinvalas. » Maurice avait écouté son cousin en silence, le regard sombre. Quand Alain se tut, il se mit à ricaner. « Oui, oui, naturellement, tu n'avoueras pas. Tu tiens trop à ta réputation d'homme sérieux, chevaleresque. Maurice !» Monsieur de Ronchais eut un léger mouvement de recul devant le regard, le geste indigné de l'officier. Alain s'écria d'un ton véhément. « C'est odieux ce que tu dis là. Ainsi donc tu crois plutôt cette femme, cette étrangère, que moi, ton cousin, avec qui tu as été élevé ?» Maurice balbutia. « Oui, j'ai confiance en elle. Je sens qu'elle est sincère. Alors c'est moi qui mens. C'est moi qui suis le misérable. » « Je ne dis pas, elle a pu se tromper, exagérer un peu dans son émotion. » Croyant qu'il fléchissait, Alain essaya de le raisonner, mais il se heurta au plus tenace parti pris. « Je l'aime, je ne crois rien de ce que tu dis d'elle, et je l'épouserai, envers et contre tous. » Ce fut sa réponse obstinée aux objurgations de son cousin. Alain s'écria exaspéré. « En ce cas, nous te raillons de notre famille, car cette femme, je ne puis en douter maintenant, n'est qu'une odieuse intrigante. Je te défends de l'insulter !» Monsieur de Pinvalas haussa les épaules. « Tu ne m'empêcheras jamais de dire ce que je pense. Et souviens-toi de ce que je te prédis aujourd'hui. Si tu vas jusqu'au bout de cette folie, c'est ton malheur que tu fais. » Maurice répliqua d'un ton rageur. « Cela me regarde. » « En effet, et moi j'ai accompli tout mon devoir en te prévenant. Adieu. Je vais écrire à ma grand-mère ce qu'il en est, quoi qu'il m'en coûte de lui apprendre que son petit-neveu, presque élevé par elle, se rend le complice d'une horrible ingratitude et de la pire fourberie. » L'officier sortit de la chambre. Maurice, un peu raidi, écouta un moment le bruit de sabres et d'éperons qui s'éloignaient. Puis, secouant les épaules, il murmura. « Bah, s'il fallait s'occuper de l'opinion de chacun, on n'en sortirait pas, comme le dit si bien Elsa. » Néanmoins, il sentait en son âme un obscur malaise. En voyant devant lui la physionomie loyale de son cousin, son regard droit et fier, il avait eu conscience de l'injustice des reproches qu'il lui adressait. Mais le constater franchement, c'était en même temps reconnaître qu'Elsa l'avait trompé. Machinalement, il acheva de s'habiller, monta dans sa voiture qui l'emmena vers l'hôtel où demeurait Mademoiselle Offel. La jeune fille l'attendait dans le salon. En manteau de théâtre de drap beige clair, orné d'une étroite fourrure foncée, elle était fort belle, très imposante. Maurice lui baisa la main et l'emmena vers son automobile, où ils montèrent tous deux. À peine la voiture partie, Elsa se pencha vers son fiancé. « Qu'avez-vous donc, Maurice ?» Embarrassé, il détourna un peu les yeux. « Mais rien, ou plutôt un ennui qui est déjà passé. »« Quel ennui ? Eh bien, Alain est venu tout à l'heure. » Une lueur passa dans les prunelles d'Elsa. « Il savait ?» « Oui. » « Comment ?» « Je l'ignore. En tout cas, ce n'est pas moi. Il m'a fait une scène. Il m'a dit que je vous avais menti, que la coupable en toute cette histoire, c'était moi. » Les yeux bleus, vifs et brillants, s'attachaient à la physionomie gênée du jeune homme. Il balbutia. « Oui, il a essayé de me le faire croire. Et vous l'avez cru ? Non, chère Elsa, non. Serais-je ici près de vous ? » Elle secoua la tête. Son regard prenait une expression grave, triste, et elle murmura d'une voix qui tremblait. « Oh, je comprends bien que vous avez douté, que vous doutez peut-être encore. Et c'est affreux pour moi, cette idée. » Elle couvrit son visage de ses mains gantées. Maurice, les écartant vivement, aperçut des larmes dans ses yeux. Alors il l'attira vers lui, l'embrassa en balbutiant. « Non, mon Elsa, je ne doute pas. Je sais que vous êtes parfaite, incapable de mensonge. » Il était repris, aveuglé à nouveau. Elle eut un sourire de triomphe. Allons, il n'était pas difficile à leurrer ce gros Maurice. Et ce n'était pas lui qui découvrirait la véritable nationalité de sa femme, ni l'honorable métier qu'elle exerçait. Quelque temps après, Madame Otto Mühlbach, en ce moment à Nice avec Florita, écrivait à Madame de Pinvalas, en réponse à une lettre où la vieille dame lui racontait ce qui s'était passé. « J'ai appris tout cela, chère madame, par l'ami qui m'avait indiqué pour Elsa cette situation chez le colonel Blins. Et ces jours-ci, j'ai su également que la jeune personne épousait le comte de Ronchet. Quelle désillusion! Pour vous d'abord, sa bienfaitrice, pour moi aussi qui l'avais en grande sympathie et m'étais occupée d'elle avec plaisir. Naturellement, elle s'est bien gardée de venir me voir depuis qu'elle est à Paris, car elle se doute certainement que je lui fermerai ma porte. Florita est indignée. Elle m'a dit qu'elle avait toujours eu, à l'égard de Mademoiselle Hoffel, une méfiance instinctive, méfiance que partageait, paraît-il, Monsieur Alain. Cette indignation, la fillette l'exprimait dans une lettre à Madame de Pinvalas, que terminait d'affectueuses et délicates consolations, car cette âme charmante devinait combien la déception était dure à cette femme bonne et généreuse qui avait prodigué les bienfaits à la fille du colporteur. La marquise songea mélancoliquement. « Oui, c'est triste d'être ainsi désillusionnée. On se demande à qui se fier. Pourtant, cette petite Florita, oh, elle, je suis sûre, ne nous décevra jamais. »